Alors, ce matin, c'est la deuxième partie de un message que j'ai apporté en février. Donc, on a eu une pause en mars, étant donné qu'on avait l'effort de Libération 21. Et ce matin, eh bien, je continue cette partie. Et la semaine prochaine, il va y avoir une troisième partie, qui est le thème « Travailler à notre salut sans tomber dans la performance ». Et comment on fait ça? Et là, naturellement, c'est basé sur un texte biblique qui veut montrer la relation qui existe entre l'œuvre du Saint-Esprit, qui est absolument essentielle, et nos efforts, qu'on pourrait dire, en tant que personne, en ce qui concerne notre salut, ou dans cet aspect du salut qui s'appelle la sanctification. Et le texte biblique, c'est celui-ci, Philippiens 2, 12 et 13. « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut. » Ou encore d'autres versions ont « Mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, comme si j'étais avec vous, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. » Parce que parfois, des fois, quand quelqu'un est là pour nous surveiller, pour nous guider, tout ça, des fois, on peut être beaucoup plus concentré, beaucoup plus volontaire, beaucoup plus participatif. Mais Paul, il dit ici, c'est pas ma présence qui est importante, c'est vraiment le fait que vous allez continuer à faire ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire à obéir, à toujours mettre en pratique la parole de Dieu, à vouloir honorer Dieu à travers votre vie. Et donc, il résume ça avec ce travail à notre salut avec crainte et tremblement. Car c'est Dieu, et ça c'est le verset vraiment important ici, c'est Dieu qui agit en vous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. Et là, j'avais introduit, j'ai pas ici, OK, alors je sais pas, pourtant je l'avais mis, mais peut-être que là, en tout cas, il apparaît pas, mais je vais vous le dire simplement, je vais vous le résumer. Alors, en février, j'avais parlé de pourquoi est-ce que on doit prendre au sérieux une telle exhortation à travailler à notre salut, et même avec crainte et tremblement. Alors, j'avais regardé un texte, entre autres, dans Hébreux 12, où on voyait, par exemple, Ésaü et son droit d'aînesse, et où l'auteur met l'emphase sur le fait que sans la sanctification, bien, personne ne verra le Seigneur. Donc, ici, il y avait quand même une exhortation très importante à prendre au sérieux l'évangile qu'on a reçu et qu'on a entendu, et qu'il fallait pas justement faire comme Ésaü et là vendre son droit d'aînesse, puis quand il a voulu le récupérer, bien, il était trop tard. Il pouvait pas faire ça, il peut pas revenir en arrière comme ça et penser que tout allait être correct. Donc, il y avait une importante décision qu'il avait prise, et là, il y a eu des conséquences à cela. Et ici, naturellement, dans le contexte d'Hébreux, ben, où là, il était en train de considérer de revenir en arrière, de retourner au temple, retourner à ses vieilles affaires désuètes, dans un sens, avec la venue de Christ, tout ça avait changé, parce que Christ était l'accomplissement de tout ce que Dieu avait promis dans l'Ancien Testament et des moyens qu'il avait donnés à son peuple à travers le temple, les sacrifices, le sacerdoce et toutes ces choses, les fêtes religieuses et ainsi de suite. Il y avait aussi l'auteur nous montre dans le verset 18 à 24 de Hébreux 12 la réaction des Israélites au mont Sinaï, que devant la magnificence de Dieu, la grandeur de Dieu, ils ont eu même peur. Et là, ils avaient peur de s'approcher de Dieu. Puis là, ils demandaient à Moïse de faire ce qui est nécessaire parce que eux avaient peur que Dieu vienne les foudroyer. Donc ici, on voit qu'il y avait une crainte. Ils tremblaient même devant la présence de Dieu. Donc, l'auteur rappelle cela à ceux à qui il destine donc son épître aux Hébreux. Et un peu plus loin, dans les versets 25 à 29, toujours dans Hébreux 12, là, il montre que malheureusement, par après, lorsqu'ils ont fait le chemin dans le désert, lorsqu'ils ont été d'un point pour aller vers la terre promise, après avoir été délivrés de l'Égypte, malheureusement, ils ont été rebelles à Dieu. Et là même, on voit que leur rébellion a entraîné des conséquences dans leur vie. Et même Paul, ensuite, va montrer que la plupart des Israélites qui étaient pourtant avec Moïse et qui ont vu des choses incroyables de Dieu se manifester, des miracles, la plupart n'ont pas été agréables à Dieu. Et il dit, ils sont morts dans le désert à cause de ça. Donc, il y avait des conséquences à leur espèce d'attitude et ici de rébellion qui allait même jusqu'à remettre en question Dieu, remettre en question pourquoi tu nous as sortis de l'Égypte, pourquoi que maintenant on est ici, on souffre, ça va pas bien, on est persécuté, bon, ainsi de suite. Et Paul lui-même se donne un exemple dans 1 Corinthiens 9, 24 à 27, où Paul lui-même dit, « Moi, je fais les choses avec sérieux. » Et c'est ensuite qu'il rappelle au chapitre 10 de 1 Corinthiens 1 à 6, justement ce que je viens de vous dire, des Israélites dans le désert qui, eux, ont pris ça à la légère et que finalement, ils ont même pas pu rentrer dans la terre promise. Donc ça, c'était dans le temps de l'Ancien Testament, dans le temps du Nouveau Testament, avec l'exemple de Paul. Il y a tellement d'autres textes qu'on pourrait ressortir. Mais il y avait aussi des exemples contemporains que j'avais donnés, dont Ravi Zacharias, qui était un apologétique, un évangéliste, qui a eu un ministère international. Beaucoup de ses enseignements sont sur YouTube, ses présentations et tout ça, et finalement un scandale épouvantable dans sa vie et qui montre comme de quoi que il faut prendre au sérieux l'évangile que l'on proclame. On peut pas faire un puis l'autre en même temps, comme on dit, avoir le beurre et l'argent du beurre. On peut pas proclamer le message de l'évangile puis vivre une vie désordonnée et penser que c'est correct. C'est tellement gros ce que M. Zacharias a eu comme problème immoral dans sa vie que beaucoup questionnent s'il avait même compris le salut qui pourtant il proclamait. Tellement que c'est grossier, tellement que c'est un scandale. Il y a pas d'autre mot que ça, que c'est totalement horrible ce qu'il a fait et là, le tort à sa famille, à son ministère et ainsi de suite. Qu'est-ce qui va arriver de son ministère? Dieu seul le sait, mais vous pouvez être sûr qu'ils essaient de gérer ça comme il faut et de reconnaître les fautes comme elles étaient. Et là, suite à ça, Dieu seul va décider qu'est-ce qui va arriver. Mais c'est épouvantable qu'une chose comme ça puisse arriver à un homme qui a proclamé l'Évangile pendant toute sa vie, écrit des livres et ainsi de suite. Et il y a aussi un qui est connu, qui a un de ses livres qui avait été traduit en français aussi, qui est Joshua Harris, qui était un peu un jeune homme qui a eu tout un ministère, un rayonnement aux États-Unis et à travers le monde, un exemple de vie, quelqu'un qui voulait que les fréquentations entre garçons et filles soient honorables devant Dieu, qui a écrit un livre là-dessus qui s'est vendu à des millions d'exemplaires, qui finalement a divorcé de son épouse et qui finalement même a délaissé la foi complètement pour dire qu'il ne se considérait même plus comme associé à la foi chrétienne. Incroyable! Alors, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Ben, il y a quelque chose ici qu'il faut retenir et c'était un peu... La raison pour laquelle je crois que cette exhortation-là est très importante. Et là, on a vu ce que Paul veut dire par l'expression « travaillez à votre salut » ou « mettez en œuvre votre salut ». Et ici, c'est l'idée d'une collaboration avec Dieu, de poursuivre nous-mêmes, d'avoir à cœur de grandir dans notre relation avec Dieu, de voir Dieu de plus en plus nous transformer, nous sanctifier. Il y a quelque chose qui doit se passer à l'intérieur de nous quand on a accepté Jésus comme sauveur personnel, que notre relation vis-à-vis nous-mêmes, notre relation vis-à-vis notre entourage, notre relation vis-à-vis toutes les valeurs qui existent dans le monde, notre relation vis-à-vis le péché, tout ça, un changement complet. Et c'est ça ici, le désir que Dieu veut qu'on aille. Et là, j'ai cité un auteur qui dit, « Laissez Dieu mettre en œuvre le salut qu'il fait déjà lui-même en nous. » Et ça, c'est Sinclair Ferguson. Donc, laissez, autrement dit, libre cours à Dieu d'agir pleinement dans notre vie. Parce que c'est lui qui crée le vouloir et le faire en nous. Mais là, il le fait pas malgré nous, et c'est là où on peut collaborer avec Dieu, où on peut résister à Dieu. Et ça dit même que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce à qui? Aux humbles. Et moi, je crois que ici, quand Paul parle de cette crainte et tremblement, il parle justement de cette disposition de cœur. On doit avoir une disposition particulière dans notre cœur, et c'est un peu ce que je vais aborder ce matin puis la semaine prochaine. Et là, j'avais présenté que, dans le fond, la formule mathématique, si on peut appeler ça comme ça, de qu'est-ce que c'est le salut, c'est Dieu plus Christ en nous. Ça égale salut à 100%. Le « nous » ici, là, que nous on a, c'est Christ qui est en nous. C'est pas nous en dehors de Christ ou en dehors de Dieu. Non, c'est Dieu qui, Christ, parce qu'il est en nous, un peu comme on a vu même dans la capsule, avec Jean 15 et la vigne. Alors, notre union à Christ, c'est ça qui fait la différence. C'est ça ici que Dieu veut qu'on saisisse. Et là, j'avais donné comme exemple le verbe « faire » selon l'humoriste André Sauvé. Et quand il parlait même que « faire, faire », c'est pas d'en faire deux fois plus. Non, c'est de laisser quelqu'un qui est habile, qui est connaissant, compétent, beaucoup plus que nous, faire pour nous ce que nous, on pourrait pas faire pour nous-mêmes. Ça, c'est faire, faire. C'est ça l'Évangile. Et là, je l'avais appliqué justement à l'œuvre de Christ en nous. Donc, il y a une relation imbriquée qui est l'une dans l'autre, qui est inséparable entre l'idée qu'on met notre confiance en Christ pour notre sanctification et celle de s'appuyer sur le Saint-Esprit pour réussir à le faire. Et ici, justement, Jean 15, 5. Donc, tout tourne autour de la personne de Christ et moi, mon rôle là-dedans, c'est de tourner vers Christ, de laisser son Saint-Esprit habiter en moi de telle façon qu'il prenne le contrôle de toute ma vie, mon existence, de mes pensées, des moindres recoins de ma vie. Et moi, pour moi, la sanctification, c'est simplement que de plus en plus, Christ, à travers son Saint-Esprit, a un contrôle de plus en plus grand sur ma vie. Et là, pas seulement sur mon comportement extérieur que tout le monde peut voir, mais sur les aspects même les plus personnels de moi que personne ne sait, mais que Dieu voit. Et là, même là, il est en train de prendre son règne et son contrôle et sa saveur et toute sa personne est en train d'imbiber mon caractère, ma personnalité. Et là, tout à coup, il y a des choses qui se passent en moi que j'aurais jamais pensé être capable de voir se réaliser. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu. Alors, quelle est notre contribution au salut? Eh bien, l'attitude d'avoir un cœur brisé face au péché. Et ça ici, c'est Scott Hubbard qui est de rechercher le brisement intérieur. C'est ça de travailler à son salut avec crainte et tremblement. C'est de réaliser là que moi, il faut que Dieu prenne, que moi je dois diminuer pour que lui puisse croître. Et ça ici, il y a cette attitude d'être brisé face au péché, de plus avoir de plaisir face au péché, même s'il y en a du plaisir dans le péché, mais c'est rendu un peu comme, je ne sais pas si, là je donne un exemple qui me vient de me popper dans la tête, je ne sais pas si c'est un bon exemple, mais je la donne, OK? Quand tu commences à bien t'alimenter, on dirait que les choses qui sont moins bonnes pour ta santé sont de moins en moins intéressantes. Parce que tu prends goût à quoi? Ben, aux légumes. Quand tu aimes du brocoli, là, c'est parce qu'il se passe de quoi dans ta vie? Hein? Au niveau alimentaire. Tu sais, quand on commence à aimer les légumes plus que... Ouais. C'est encore bon des chips, hein? Mais les légumes, quand tu commences à aimer ça, puis à en manger, puis tu sais, vraiment en profiter, puis pas que c'est pas un dur labeur, il y a quelque chose qui a changé. Parce que dans notre culture, en tout cas moi je sais que j'ai grandi pas dans un environnement où il y avait beaucoup de légumes, disons. C'était souvent en canne, tu sais, des petits pois en canne, et puis des bines en canne, en tout cas, toutes sortes d'affaires en canne. Fait que... Il y a quelque chose qui change face au péché. Et un autre auteur qui s'appelle Samuel Rutherford, lui dit, c'est de chercher un cœur brisé devant le péché, car sans cela, il est impossible de rencontrer Christ. Alors, donc, deux éléments ici qui montrent en quoi nous, on peut collaborer maintenant ici avec Dieu. Et là, je vais juste préciser ce qu'un cœur brisé n'est pas, avant de définir ce qu'est un cœur brisé. Alors, ce qu'un cœur brisé n'est pas, premièrement, c'est que c'est pas quelqu'un qui est découragé. C'est pas lorsqu'on vit un découragement qu'on a un cœur brisé. On peut être triste pour toutes sortes de raisons, mais c'est pas un cœur brisé. C'est pas ça l'essentiel d'un cœur brisé. C'est pas non plus une dépression. Alors, beaucoup de gens, moi-même, j'ai déjà vécu un épisode de dépression dans ma vie, mais j'avais pas un cœur brisé. Parce que souvent, une dépression, c'est que t'es plus centré sur ta douleur que tu vis. Pour toutes sortes de raisons, tu vis des circonstances difficiles, t'es découragé, et le découragement va à un point tel que là, tu ressens ta douleur, puis là, c'est comme t'es dans cette douleur-là. Et là, tu as des pensées sombres, tu as des pensées négatives, la vie est pas le fun, la vie est pas belle, et des fois même, ça va jusqu'à vouloir quitter ce monde. Il y en a qui ont eu des pensées allant jusque-là, il y en a qui ont fait des tentatives, mais c'est pas un cœur brisé. C'est pas ça, un cœur brisé. C'est triste, quelqu'un qui vit du découragement, quelqu'un qui vit une dépression, mais c'est pas l'essence d'un cœur brisé. C'est pas non plus une peine d'amour. Oui, quelqu'un a brisé votre cœur dans ce sens-là, mais c'est pas une peine d'amour, hein? Parce qu'encore là, c'est lié à ma vie, à ma relation amoureuse, et puis là, quelqu'un que j'aimais, finalement, elle m'aimait plus ou lui m'aimait plus, et là, je vis une peine d'amour, je suis triste, et on en revient assez souvent d'une peine d'amour. Des fois, après une semaine, des fois un peu plus long, dépendamment qu'est-ce que c'est, quel âge qu'on a, des choses comme ça. C'est pas non plus un apitoiement, qui peut aller des fois justement avec un découragement, avec une peine d'amour, avec une dépression. Donc, c'est pas l'essence même d'un cœur brisé. Et c'est pas non plus de vivre un échec. Maintenant, chacune de ces choses-là peut faire partie d'un cœur brisé ou peut contribuer à arriver à cette bénédiction, j'appellerais ça comme ça, d'un cœur brisé. Mais en eux-mêmes, chacune de ces choses-là, ou en elles-mêmes, ne représente pas l'essence d'un cœur brisé. Maintenant, c'est quoi un cœur brisé? Quels sont les éléments fondamentaux que l'on voit dans les Écritures et qui constituent un cœur brisé? Premièrement, il y a un renoncement. Et si vous voyez souvent dans l'Évangile, même dans les Évangiles, avec Jésus, il parle souvent de cet aspect-là de renoncement. Donc, allant dans l'essence même d'un cœur brisé, il y a quelque chose qui se passe au niveau de mon cœur qui est un renoncement à quelque chose de fondamental, d'important, de central à ma vie, sur lequel ma vie était fondée et basée jusqu'à un point où là j'arrive à ce renoncement, à ce cœur brisé. C'est aussi une fin à soi-même, à ma quête de m'épanouir, de me trouver, de me définir, de m'accomplir, d'atteindre mes buts, de réaliser mes rêves. Un cœur brisé, là, il arrive à une fin vis-à-vis lui-même, quelqu'un qui a un cœur brisé. C'est aussi une abdication complète de mes droits et mes privilèges. C'est comme si là, c'est plus moi qui est important. C'est plus qui je suis et ce que je veux dans la vie qui est important. Il y a une abdication, vous comprenez? Il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau du cœur, que mon cœur bascule. Et là, je suis prêt à renoncer à tout. On voit par exemple dans les Évangiles le jeune homme riche à qui Jésus est en train d'interagir parce que lui, il veut quoi? Il veut la vie éternelle. Qu'est-ce que je dois faire? Et là, Jésus commence à lui parler des commandements. « Ah, j'ai fait tout ça, moi, jusqu'à maintenant. Chaque jour, j'ai pratiqué les 10 commandements. » OK. Alors maintenant, vends tout ce que tu as. C'est un jeune homme riche, là. Il y en a des choses. Des bébelles, il y en a. Hein? Dans sa cour, il y en a des affaires. Et là, qu'est-ce que ça dit? Là, c'est comme non. Donc, il n'a pas voulu abdiquer complètement sa vie à Christ. Il n'a pas passé par ce cœur brisé. Et même, c'est une repentance quotidienne. Donc, c'est pas quelque chose que j'ai fait une fois dans ma vie, que j'ai renoncé, j'ai demandé pardon, j'ai réalisé mes fautes. Mais un cœur brisé, là, il est constamment en train de se repentir. Parce qu'il est constamment en train de prendre conscience de son péché. Il est constamment en train de réaliser à quel point ça va pas, à quel point je l'ai pas, moi, ce qu'il faut. Et que là, je pèche contre Dieu. Et là, je suis prêt à me repentir encore et encore et encore. Parce que j'ai cette sensibilité-là au cœur de Dieu et à la sainteté de Dieu et à qui Dieu est pour moi et à qu'est-ce que Christ a fait pour moi à la croix. Et là, je suis interpellé quotidiennement dans ma vie. Je vous dirais même, je ne sais pas si vous l'avez expérimenté, mais je suis pas mal sûr qu'il y en a plusieurs qui ont expérimenté ça. Quand je suis venu, moi, à la foi chrétienne, quand j'ai accepté Jésus, j'étais un jeune homme, 18 ans. Puis pas longtemps après avoir accepté Jésus, j'ai remis mon salut en question parce que je me trouvais pire qu'avant. C'est comme si je voyais toute la problématique de mon cœur, la difficulté que j'avais de mettre en pratique ce que Dieu disait. Je n'étais pas capable de respecter ce que Dieu me demandait. Et j'étais conscient de mon péché, j'étais conscient de mon attitude, j'étais conscient de mes convoitises. J'étais tellement conscient de moi, mais dans le sens de mes faiblesses, que je ne peux pas être sauvé, c'est impossible. Et là, je me rappelle de m'avoir confié, d'avoir ouvert mon cœur, puis pour là réaliser que, mais ça, c'était l'œuvre du Saint-Esprit dans ma vie. C'était une repentance quotidienne. J'ai besoin de Jésus, et là, il fallait que je revienne à Jésus, que j'arrête de me regarder moi-même et de regarder tous les défauts qu'il y avait encore dans ma vie, pour là me tourner vers Christ. Le seul but de la conviction du péché que le Saint-Esprit apporte dans nos vies, c'est de nous tourner vers Jésus et de dire, regarde, mais c'est ça, Jésus, il est mort pour ça. Viens à lui. Ne te prive pas de la grâce, de son pardon. Mais il y a cette idée constamment de laisser l'Esprit de Dieu travailler en moi. Et j'ai besoin de Christ en moi. Et finalement, c'est un lâcher prise sur tout. J'étudie tout. Un cœur brisé, là, comme je disais tantôt, c'est la fin à soi-même. C'est une abdication complète. C'est cette idée, là, que moi, là, je ne vis plus, je n'ai plus de vie. Comme on a chanté, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ben c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis encore dans la chair, dans ce monde, dans la réalité quotidienne de tous les jours, dans mes responsabilités, tout ça, ben je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. C'est cette relation-là que j'ai avec Jésus maintenant qui est tellement, tellement, tellement fondamentale que moi, c'est ça. Sans Christ, ben, je suis pulvérisé, je suis disparu, je n'existe plus. J'ai besoin de Christ et Christ est ma vie et tous les jours, c'est ça que j'expérimente avec lui. Il y a quelques auteurs que j'ai trouvés sur justement un cœur brisé, et je vous donne ça en rafale. Charles Spurgeon qui a dit, il y a plusieurs sortes de cœurs brisés et Christ est capable de les guérir tous. Amen? Amen. Bonne nouvelle, hein? On peut applaudir. Dieu est le seul médecin qui peut guérir un cœur brisé. Oh, ça, je l'ai pas modé. Dieu est le seul médecin qui peut guérir un cœur brisé et il n'a jamais échoué dans sa capacité de guérir. Amen? Amen. Ça, c'est la bonne nouvelle. Tournons-nous vers lui. John Piper, qui hier, justement, on avait la conférence là, par Internet sur Dieu est l'Évangile. Alors, John Piper a dit ceci. « Ce qui fait d'une personne un chrétien n'est pas qu'elle ne se décourage pas. Ce n'est pas non plus qu'elle ne pêche pas et ne se sent pas misérable de son péché. Au contraire, mes amis! » C'est ça la bonne nouvelle. C'est que si vous avez conscience de votre misère, si vous avez conscience de votre péché, si vous avez conscience de pas marquer la cible, de pas être saint comme Dieu est saint, amen! Ça veut dire que Dieu est à l'œuvre dans votre cœur. Et il est en train de chercher à vous garder dans un cœur brisé et non pas dans une espèce d'état de force et de satisfaction personnelle en vous-même. Il continue en disant, ce qui fait d'une personne un chrétien, c'est la relation qu'elle a avec Jésus-Christ. C'est ce lien, l'union qui détermine comment elle voit, comment elle vit, comment elle ressent son découragement, son péché, sa culpabilité. Voilà la différence. C'est la relation personnelle avec Jésus. Là, après ça, ça vient tout changer, cette réalité-là, du découragement, de la présence du péché encore à moi, de mon sentiment de misérable en moi-même, parce que là, je peux me tourner vers Christ. Et là, il dit aussi, être chrétien signifie être brisé, être contrit. C'est le nectar et l'arôme même de la joie chrétienne, de la louange et du témoignage. C'est-tu pas contradictoire, ça? Avoir un cœur brisé, puis en même temps, être le cœur le plus libéré de la terre. Parce que là, tout à coup, je sors de moi-même, et là, j'ai Christ devant moi, et là, je sais que s'il est mon tout, il est ma vie, il est mon espoir, il est mon pardon, il est mon assurance, il est mon amour, il est tout ce que j'ai besoin, je l'ai en lui. Et là, mon cœur explose de joie. Mon cœur est rempli d'espérance. Je sors de ma misère, mais mes yeux sont sur Christ. Et c'est ça qui est fantastique, c'est ça qui est formidable. Un autre auteur plus vieux et décédé depuis plusieurs centaines d'années, Jonathan Edwards, dit ceci, « Toutes les affections gracieuses, tous les sentiments et émotions qui peuvent être dans mon cœur sont un doux arôme pour Christ. Ils sont des affections venant d'un cœur brisé. » Un véritable amour chrétien, que ce soit pour Dieu ou pour les hommes, est un amour humble venant d'un cœur brisé. Vous voyez comment c'est important et central, un cœur brisé, parce qu'un cœur brisé ne peut trouver que la guérison en Jésus. Et ayant trouvé en Jésus la guérison, bien là, tout change. Les désirs des croyants, c'est toujours lui qui dit ça, M. Edwards, les désirs des saints, aussi ardents soient-ils, sont des humbles désirs. Leur espérance est une humble espérance, et leur joie, même quand elle est indescriptible et pleine de gloire, est encore là une humble joie venant d'un cœur brisé. Martin Luther, lui, a dit ceci dans les 95 thèses qu'il avait écrites et qui a été déterminante pour l'histoire même du protestantisme. Sa sortie du catholicisme et tout ça, l'article 1 disait « Il faut confesser nos péchés et s'en détourner. Notre Maître et Seigneur Jésus-Christ a voulu que la vie entière des croyants soit une vie de repentance. » Donc, la repentance au quotidien ou quotidienne. Aussi, un auteur, Nancy Lee DeMoss, qui a écrit plusieurs livres, qui est une animatrice de radio aux États-Unis, qui contribue aussi au site de Gospel Coalition. Elle a écrit quand même beaucoup sur le brisement, et elle dit ceci, « Le brisement est un style de vie consensuel, c'est-à-dire comme un consensus avec Dieu sur la véritable condition de mon cœur et de ma vie, et tel que Dieu le voit. » Elle dit aussi, c'est un style de vie de soumission inconditionnelle et totale de ma volonté à celle de Dieu. Une attitude de cœur qui dit, oui Seigneur, à tout ce que Dieu dit. Le brisement aussi signifie la fin de ma volonté propre, afin que la vie de Christ et l'Esprit du Seigneur Jésus puissent être libérés en et par moi. Et le brisement, c'est ma réponse d'humilité et d'obéissance à l'autorité de la parole et aussi à la conviction de l'Esprit de Dieu. Et comme la conviction, elle est continuelle, bien le brisement, lui, il l'est aussi. Vous voyez, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie maintenant parce que là, je comprends l'importance de Dieu et de sa présence dans ma vie et que lui, il est le tout et moi, je suis simplement l'objet de sa grâce. Finalement, elle dit aussi, le véritable brisement a à la fois une dimension verticale et une dimension horizontale. Il est démontré dans une volonté de vivre avec un toit ouvert. Un peu comme on voit dans l'histoire où ils ont ouvert le toit pour amener le paralytique à Jésus. Alors ici, elle donne un peu cette analogie. On vit notre vie avec un toit ouvert qui est dans ma relation avec Dieu. Donc, constamment, Dieu a accès à moi et moi, j'ai accès à Dieu. Et des murs tombés dans mes relations avec les autres. Vous savez, ceux qui vivent le brisement tel que Dieu le fait générer dans le cœur de quelqu'un et la vie de quelqu'un, ça change non seulement sa relation avec Dieu du tout au tout, mais ça change même sa relation avec les autres. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui bouscule ou qui bascule dans mon cœur vis-à-vis ma relation avec les autres. Et là, tout à coup, mes relations sont teintées de la présence de Christ, de ce cœur doux et humble qui caractérisait la personne de Christ, de cet amour sincère et authentique que Christ avait pour les gens. Les gens sentaient cet amour-là. Ils savaient que c'était pas pour faire du recrutement ou pour avoir un avantage ou quelque chose en retour. Jésus aimait d'une façon qui était divine, parfaite. Et cet amour, naturellement, il le produit aussi dans le cœur de celui qui est brisé. Son amour, tout à coup, a accès à ma vie, accès à ma pensée, accès à mes motivations, accès à mes craintes, accès à tout ce qui concerne mon être dans toute son intimité. Et là, tout à coup, les choses commencent à changer dans ma vie et mes relations en sont profondément affectées. Caractéristiques des gens qui vivent le brisement. Et là, j'ai un témoignage aussi qui va un peu comme mettre tout ça ensemble. Ils ont le sentiment, ils ont le sentiment de leur indignité et ils sont ravis de constater que Dieu puisse quand même les utiliser. Vous voyez, encore là un genre de paradoxe. Je suis indigne, mais je suis tellement content parce que Dieu m'utilise malgré mon indignité. Malgré le fait que je suis comme je suis, Dieu agit en moi et à travers moi. Une autre chose, c'est qu'ils sont prompts à voir et à reconnaître leurs torts. Et ils reçoivent la critique avec un esprit humble et enseignable. Ça, c'est toujours une caractéristique croissante chez les chrétiens. N'est-ce pas? Chez les chrétiens, on peut trouver cette... et surtout vers les gens qui ont cette conscience même là de leurs besoins de Christ. Il y a cette accessibilité à leur vie. Et ils sont les premiers à reconnaître leurs fautes. On n'a pas besoin d'argumenter, de trouver des preuves avec 6, 7, 8, 9, 10 preuves comme de quoi que. Non, ils vont avoir une facilité et même des fois, ils vont eux-mêmes le dire avant même qu'on souligne quoi que ce soit. Ils sont aussi prompts à pardonner et à passer par-dessus les offenses. Ayant goûté à la grâce, naturellement, c'est comme plus facile à l'accorder aux autres. Ils prennent l'initiative de la réconciliation lorsqu'il y a un conflit et ils s'empressent d'aller à la croix et d'encourager l'autre à le faire, même si c'est l'autre qui avait tort. Il y a quelque chose qui change dans la dynamique. C'est plus, s'il vient pas, si moi j'irai pas me mettre à genoux devant lui ou devant elle. Si elle a fait pas un bouge ou lui fait pas un bouge, moi je ferai pas de bouge. Un cœur brisé, là, il est pas préoccupé de ça, pantoute. Il a tellement goûté à la grâce de Dieu, il a tellement goûté à l'amour de Christ, à ce qu'il a fait à la croix pour lui. Son cœur est tellement bouleversé par tout cela qu'il veut justement réconcilier s'il sait qu'il y a des choses qui ont été affectées. Un peu comme Zachée qu'on voit dans le Nouveau Testament, que aussitôt qu'il a goûté à l'amour de Christ qui était venu dans sa maison, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Ben moi, je vais rembourser tous ceux à qui je dois. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais même en rajouter davantage. Et puis, c'était effectivement le désir de son cœur. Aussi, ils ressentent leur besoin de la miséricorde de Dieu et leur besoin d'avoir un cœur repentant. Et ils soupirent après Dieu. et soupirent d'être en communion avec Dieu. Et hier, un peu, Monsieur Piper, pour ceux qui, peut-être d'entre vous l'avez écouté, c'était un peu ce qu'il essayait de faire ressortir, que ça, c'est comme la chose la plus fondamentale qui devrait arriver dans nos cœurs lorsqu'on saisit que Dieu est l'Évangile, c'est lui l'Évangile. Christ, sa mort sur la croix, c'est tout imbriqué ensemble, son amour. Et puis là, ce que ça fait chez nous, c'est que ça crée un désir grandissant de le connaître. Non pas, comme il dit, d'avoir ses bienfaits, non pas d'avoir plein de bénédictions. Puis lui-même, il est allé jusqu'à dire que, selon lui, puis là, naturellement, il parlait de son expérience aux États-Unis, là, mais il y a beaucoup dans les églises qui ne sont même pas nés de nouveau, ne sont même pas vraiment convertis. Ils sont là pour ce que Dieu peut leur donner à eux, bonifier leur vie. Ils sont là pour avoir des bénédictions de Dieu, la protection de Dieu. Mais ils sont pas là nécessairement juste pour Dieu. Seigneur, enlève-moi tout le reste, mais pas toi. C'est toi que je veux. C'est te connaître davantage que je veux. C'est d'avoir une relation avec toi que je veux. Et non pas d'avoir une belle auto, une belle maison, un bon emploi, une belle famille, un époux aimant, une femme fine. Toutes ces choses-là. Et là, on pourrait en rajouter, là, une santé, puis bon, ainsi de suite. Non, Seigneur, ce que je veux, c'est sûr, si tu me donnes ces choses-là, c'est correct, mais moi, ce que je veux, essentiellement, c'est je veux te connaître, je veux être avec toi, je veux être en relation avec toi. Et là, lui, pour lui, d'être en communion avec Dieu, d'avoir ce désir-là, de glorifier Dieu, d'élever Dieu, de voir la beauté de Christ, la grandeur de Dieu, et de s'en réjouir, là, de se délecter comme si c'était un bon repas, comme si Dieu était la chose la plus précieuse et la, qui me procure la plus grande joie. Ça prend un cœur brisé. On peut pas générer ça en nous-mêmes. Vous comprenez? Il faut que Dieu crée en nous ce cœur brisé. Et là, ici, justement, avant de conclure, j'ai le témoignage de cet homme que j'ai beaucoup apprécié lire son livre et quelques-uns de ses livres que j'ai en anglais. Celui-là aussi est en anglais. Je l'ai traduit par L'éveil à l'Évangile. C'est Jared Wilson. Ceux qui lisent l'anglais qui aimeraient ça, c'est vraiment un très bon livre. Et en anglais, il s'appelle Gospel Wakefulness, donc L'éveil à l'Évangile. Et là, ça fait 10 ans qu'il a écrit son livre. Et pour ces 10 ans, il a écrit un petit article sur, justement, le site de Gospel Coalition. Et j'ai aussi, dans ses livres, un peu son témoignage. Donc, j'en ai mis quelques portions dans ce que je vais vous lire. Alors, dans l'article qu'il écrivait pour célébrer les 10 ans de l'écriture ou la sortie de son livre, il dit ceci. De quoi s'agit-il, en parlant de quoi s'agit-il au niveau de l'éveil à l'Évangile? C'est quoi ça, l'éveil à l'Évangile? Eh bien, il s'agit essentiellement d'un réveil personnel. Il s'agit d'un saut gigantesque qu'un chrétien arrive à faire dans sa sanctification lorsqu'il se retrouve à l'intersection d'une rupture profonde face à lui-même, donc qu'il appelle le brisement, et d'un regard nouveau sur la gloire de Christ gracieux. Donc, autant moi, je suis jeté par terre, que là, mes yeux se lèvent vers le ciel et vers Christ, et là, je contemple d'une façon totalement extraordinaire et unique et fantastique et nouvelle la personne de Christ et son œuvre glorieuse. Il s'agit de cette sorte de prise de conscience qui se produit dans le cœur de tous les fils prodigues, comme on voit dans la parabole du fils prodigue, qui arrivent à chérir davantage Christ et goûter tendrement et même émotionnellement encore plus à sa puissance. Ce livre, qui a été écrit en 2011, a été le fruit de ce qui m'était arrivé 5 ans avant son écriture, donc en 2006. Quand le Dieu Tout-Puissant s'est présenté à moi par le toit de la chambre d'amis de notre maison à Nashville au moment de ma vie où j'étais le plus désespéré et déprimé. Et il était dans la chambre d'amis parce que sa femme ne voulait plus rien savoir de lui. Elle voulait divorcer. Elle en avait plein son casse. Ce qui m'est arrivé était entièrement de ma faute. L'église où nous allions était devenue de plus en plus grande, mais de moins en moins chaleureuse et sans grande possibilité de développer de vraies relations. Becky, qui s'appelle sa femme, et moi, nous nous sommes alors refroidis spirituellement petit à petit. Et moi, je consommais souvent de la pornographie. Le problème avec toute habitude destructrice, y compris et surtout la porno, c'est que ce que vous faites en privé ne reste pas entre vous et votre esprit. Cela a des effets réels sur les gens autour de vous. Mon être intérieur ne pouvait plus se cacher derrière ma façade extérieure. Et là, les fissures ont commencé à s'élargir. Au cours des années, j'étais devenu une personne de plus en plus dure, misérable, exigeante et étroite en esprit et en cœur. Je n'étais pas là pour ma femme, je ne m'intéressais pas à elle et je ne prenais pas soin d'elle. Bref, je ne l'aimais pas vraiment. Je n'ai jamais frappé ma femme, je ne lui ai jamais crié dessus, mais ce ne sont pas là les seuls types d'abus. Un bon matin, après presque 8 ans de souffrance, à cause de moi et de mon péché d'immoralité sexuelle, qu'elle connaissait, elle s'est réveillée et a décidé qu'elle en avait assez. Elle ne voulait plus être mariée avec moi. Elle ne m'aimait pas. Et elle ne m'aimerait plus jamais. Nous avions déjà eu cette conversation quelques fois auparavant, mais cette fois-ci, c'était différent. C'était bien fini. Son réservoir de grâce envers moi et mon péché était vide. Je l'avais tout utilisé. Au cours des mois qui ont suivi, j'étais très conscient qu'à tout moment, ça pourrait être le dernier jour de notre mariage. Nous avons vécu comme des colocataires pendant environ 1 an, faisant chambre à part. J'ai dormi dans la chambre d'amis. Je restais éveillé la nuit, je tremblais à l'idée d'avoir à expliquer à mes petites filles que papa n'allait plus vivre à la maison. Ce qui m'a gardé éveillé, c'est le profond sentiment que j'avais créé cette situation. C'était réellement de ma faute. Je tombais en dépression on and off. Il est difficile de décrire la dépression et toutes les expériences de dépression ne sont pas les mêmes, bien sûr. Je me sentais vide et engourdi, mais en même temps très lourd, comme rempli de plomb. C'était le pire état d'impuissance, le plus horrible et le plus désespéré que je me sois jamais senti de toute ma vie. Pendant des semaines, j'étais chaque nuit face contre terre, sur le sol de notre chambre, d'amis gémissant et suppliant Dieu de m'aider, de me sauver de la dépression, de mes pensées remplies de chagrin et de la douleur. Et comme j'étais à court d'options et d'aide, et que j'étais sur le point d'abandonner le peu de foi qu'il me restait, j'ai décidé de chercher encore plus intensément la présence de Dieu. Voyez-vous la différence entre son désespoir, sa dépression, et là maintenant où là, il shift, et là il veut, d'une façon encore plus intense, chercher la face de Dieu. Plus que jamais, je me suis mis à l'écoute de sa voix encore plus attentivement que jamais. J'ai lu la Bible comme un homme affamé qui déchire son pain. C'est ma conviction profonde que Dieu ne deviendra pas votre seul espoir jusqu'à ce qu'il devienne votre seul espoir. Il n'y a plus rien d'autre. Il n'y a plus personne vers qui je peux me tourner. Il n'y a pas de téléphone que je peux faire. Il n'y a pas d'endroit, de feuille que je peux virer de bord ou de livre que je peux lire. Dieu est mon seul espoir. Et c'est au milieu de ces jours difficiles que j'ai vécu le moment le plus déterminant de ma vie. J'étais totalement assoiffé de Dieu et désespéré. C'est alors qu'il a saisi mon âme avec la bonne nouvelle, l'Évangile de Jésus-Christ. Ce n'était pas un nouveau message. Ce n'était pas quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant. Mais au sein même de ma douleur et de ma ruine, c'est comme si je venais de l'entendre pour la toute première fois. C'est mon moment d'éveil à l'Évangile, l'aube de la réalisation que l'Évangile n'est pas seulement pour les personnes perdues, mais il est aussi pour les chrétiens, L'Évangile, ce jour-là, a pris toute une place de choix dans mon cœur. En fait, il a pris toute la place. Et par la grâce de Dieu, je ne cesse de revenir dans mon cœur et dans mon esprit à ce moment d'éveil à l'Évangile. Cela m'a rendu nettement centré sur l'Évangile avant même de découvrir l'existence d'un mouvement ou d'une coalition sur l'Évangile. En fait, ces choses n'existaient même pas encore. Je ne suis pas devenu convaincu de la centralité de l'Évangile parce que quelqu'un m'a donné un livre sur le sujet, m'a emmené à une conférence ou m'a fait écouter un enseignement de quelqu'un. C'est arrivé parce qu'au jour le plus sombre de mon existence et où je voulais mettre fin à mes jours, j'ai crié à Dieu au plus profond de mon désespoir et il m'a secouru en me communiquant sa grâce que, malheureusement, et à mon grand désarroi, j'avais laissé très loin derrière moi. Ésaïe 57:15. Car voici ce que dit le Dieu très élevé qui demeure éternellement, qui s'appelle le Saint. J'habite dans un lieu qui est très haut et très saint. Hein? Dieu est wow, il est transcendant. Il est dans une classe à part. Et on pourrait penser qu'il est loin. Regardez la suite. Non seulement j'habite dans un lieu qui est très haut et saint, mais je demeure aussi avec l'homme accablé, avec la femme dont l'esprit est abattu, pour ranimer la vie de celui qui a un esprit abattu et vivifier le cœur des hommes et des femmes qui sont accablés. Dieu est près de ceux qui souffrent, de ceux qui crient à lui, de ceux qui n'ont plus rien, qui sont arrivés au bout du bout. Ce que j'ai vécu n'était pas la nouvelle naissance, mais un bond gigantesque dans ma sanctification. Ce moment divin où Dieu m'a apporté l'Évangile et son soutien au sein même de mon brisement. J'ai simplement vécu un éveil à l'Évangile. Je sais aussi que ce n'était pas seulement un épisode émotionnel passager puisque mes circonstances de vie ne se sont pas améliorées immédiatement. Et pourtant, je goûtais jour après jour à cette satisfaction en Christ, à tel point que la paix qui surpasse toute intelligence demeure encore en moi. Elle n'est pas partie. Et même si je pêche toujours, et même si je suis encore soumis aux fluctuations des circonstances extérieures, je demeure confiant en Christ, en paix en Christ, et dans cet état intérieur d'adorateur en Christ. Et je les vis, je vis toutes ces choses, ces circonstances, ces fluctuations, ces moments où je pêche contre Dieu. Je vis tout ça de façon radicalement différente de comment je les vivais avant cet éveil de l'Évangile, avant cette rencontre divine avec Christ. Et c'est un changement durable parce qu'il n'a pas été suscité suite à une expérience émotionnelle spontanée, à un temps d'adoration qui vous soulève dans les airs ou quelque autre impact temporaire. Non, ce fut plutôt en arrivant à la fin de moi-même et à la fin de toute autre espérance. Et en trouvant les bras grands ouverts, restaurateurs de Christ, le seul qui demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je n'ai jamais été le même après. Je ne suis pas devenu parfait, mais par la grâce de Dieu qui m'a été accordée ce jour-là, j'ai un sens plus grand et plus prononcé de la perfection de Christ. Pas de moi en tant qu'être homme parfait, mais de Christ, lui qui est parfait, complet. Le Saint-Esprit m'a ranimé et m'a rappelé ma position que j'ai en Christ et mon libre accès au trône de sa grâce. Je ne peux que constater à quel point cela a aussi changé la façon dont j'ai vécu et surmonté toutes sortes de relations conflictuelles et de mépris par la suite. Une fois que vous saisissez, ou plutôt que vous êtes saisi par la vérité que votre vie est cachée avec Christ en Dieu, vous prenez conscience que vous n'avez plus rien à cacher. Et quand vous êtes conscient de votre nouvelle identité en Christ, vous n'êtes plus contrôlé par le sentiment de devoir prouver quelque chose à quelqu'un. L'Esprit vous donne le vouloir et le faire pour être qui vous êtes vraiment avec humilité et confiance. J'appelle cela s'imbiber de l'Évangile. Et là, ici, il fait une note quand même encourageante pour beaucoup d'entre nous chrétiens, et c'est peut-être vrai pour vous aussi. L'éveil à l'Évangile ne se produira pas tout d'un coup comme un réveil spirituel, un point tournant dans votre relation avec Dieu, et tel un grand bond en avant. Cela se fera possiblement tel un lever du soleil à l'aube, tout doucement et lentement. Dans les deux cas, et dans tous les cas qui puissent exister entre les deux, l'éveil à l'Évangile produira en vous une plus grande appréciation de Christ. Et une telle appréciation de Christ est l'œuvre sanctifiante de l'Esprit, administrant la grâce et les bienfaits de l'Évangile à nos cœurs. L'apôtre Jean aborde ce sujet lorsqu'il dit « Et nous avons tous reçu de sa plénitude et il a déversé sur nous une grâce après grâce. » Jean 1, 16. C'est grâce après grâce, une révélation après l'autre, une bénédiction après l'autre. Telle est la grâce de Dieu et sa volonté pour chacun de nous. Alors, je vais sauter ici rapidement, simplement pour aller à la troisième partie qui est en bas, qu'on va voir la semaine prochaine. Je vais revenir sur ces avantages d'un cœur brisé. Mais seul un cœur brisé nous apprend à haïr ce que Christ est, à accueillir sa grâce et à entendre son chant d'amour. Et on va voir ça, ces trois éléments-là, plus en détail. Alors, ce matin, Dieu nous invite tous à rechercher un cœur brisé, le brisement intérieur, me mettre d'accord avec lui sur la condition de mon cœur, à cesser de faire des efforts inutiles et épuisants, comme si la sanctification dépendait de moi et de ma volonté et de ma discipline personnelle, et d'essayer de projeter, dans le fond, une image meilleure que je suis en réalité. Parce que oui, devant d'autres, ça peut paraître bien, mais dans ma vie privée, c'est toute une autre histoire. Et finalement, prier pour que lui me brise gentiment et avec amour. Parce que vous savez, on peut pas s'infliger le brisement. Parfois, il y en a qui pensent que les autres cherchent à les briser, comme si certains chrétiens avaient le don spirituel du brisement, c'est-à-dire du brisement des autres. Mais en fait, c'est seul Dieu qui peut débloquer les artères de mon cœur sclérosé. Parce que ça, c'est une histoire de cœur, c'est une rencontre avec Dieu. Et ça peut se faire comme un réveil spirituel, comme ça peut se faire, et souvent ça se fait petit à petit, une journée après l'autre, une découverte après l'autre, un temps avec Dieu après l'autre. Mais une chose est certaine, mon appréciation de Christ, ma dévotion à Christ, mon amour pour Christ, mon appréciation de sa grâce, mon appréciation de son sacrifice à la croix, mon appréciation de ce qu'il est le tout de ce que j'ai besoin, grandit en moi. Et plus cela grandit en moi, plus Christ est glorifié. Je vais inviter l'équipe de louanges et je vais prier juste pour terminer et leur permettre aussi de venir. Seigneur Jésus, on se place devant toi ce matin et on veut te demander, Seigneur, de nous rencontrer. Ce matin, Seigneur Dieu, toi seul, tu connais chacun de la condition de notre cœur. C'est toi, Seigneur, qui nous connais de bord en bord. Et Seigneur, on veut s'approcher de toi ce matin. Je veux te prier pour ceux et celles qui ce matin voudraient justement goûter davantage à ta présence dans leur vie. Goûter davantage à ta grâce, Seigneur, cette grâce sanctifiante, cette grâce qui transforme, cette grâce qui nous amène à voir la condition réelle de notre cœur et en même temps la grandeur de ton œuvre sur la croix et la toute suffisance de qui tu es, Jésus, et de vouloir t'avoir, toi, plus que toute autre chose, plus que toute autre bénédiction, plus que tout autre avantage ou tout autre présent de ta part, mais d'avoir ta présence proche d'eux à chaque jour, d'avoir cette relation avec toi, Seigneur. Je te prie ce matin que ton Saint-Esprit puisse les conduire à toi, que ton Saint-Esprit puisse faire cette œuvre dans leur cœur, afin qu'ils puissent grandir dans leur relation avec toi et travailler ainsi à leur salut avec crainte et tremblement. En ton nom, Jésus. ta gloire.